Ça se trouve vers la fin de notre Nouveau Testament. Vous savez que la Sainte Bible est divisée donc en deux alliances ou deux testaments. Et vers la fin, il y a deux lettres écrites par l'apôtre Pierre, qui par la grâce de Dieu ont été préservées pour nous. Il y a un mot qui revient 11 fois dans la première lettre écrite par l'apôtre Pierre. Après, il y a des synonymes aussi, mais je vais regarder ce mot spécifique. On va regarder la plupart rapidement de ces versets. Trouvez 1 Pierre chapitre 2, verset 19. 1 Pierre 2, verset 19, vous allez trouver le mot qui se répète. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Regardez le verset 20, 1 Pierre 2, 20. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Le verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Verset 23, 1 Pierre 2, 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité. » En fait, c'est le même mot que nous suivons. La Bible de Sommer le traduit ainsi, « Quand on le faisait souffrir, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Regardez le chapitre 3, le verset 14. Vous repérez maintenant, j'espère, le mot. 1 Pierre 3, 14. « D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » Verset 17. « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Regardez le chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Et puis au verset 15, 1 Pierre 4, 15, « Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Verset 19, ainsi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et puis au chapitre 5, les versets 10 et 11, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Et dites-le avec moi. Amen. Amen. Alors le mot c'est quoi? C'est le verbe souffrir. Et il y a aussi quatre fois que de plus on trouve le nom souffrance. Mais je reviens à 1 Pierre chapitre 2. Et verset 21, où nous trouvons la phrase « Christ aussi a souffert pour vous ». Alors plusieurs fois, quand ça parle de la souffrance de Jésus-Christ. Et ici, chapitre 2, verset 21, il dit que « Christ a souffert pour nous ». Jésus-Christ devait souffrir. Il a dit lui-même à deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, après qu'il, ses deux disciples, ils lui parlaient de la crucifixion, ce qui s'est passé, sans savoir à qui il parlait. Et Jésus leur dit, c'est en Luc 24, 26, il dit, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses ?» Il fallait. Plus tard, le même jour, il dit à ses disciples réunis dans la chambre haute, « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir. » Et Pierre, l'auteur humain de cette lettre, quand il prêchait devant le temple, en Actes chapitre 3, il dit ceci. Mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Et quand Paul et Silas arrivent à Thessalonique, c'est raconté en Actes 17, Luc nous dit que Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que, entre autres, Christ devait souffrir. Alors, mais nous voulons poser la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a dû souffrir ? Et une réponse qui nous est donnée dans cette même lettre, c'est au chapitre 3, verset 18, où il dit que Christ aussi a souffert. C'est un synonyme pour le mot « souffrir » que nous avons déjà vu, mais c'est un autre mot qui parle en fait de la mort, souffrir la mort. Et donc il a souffert la mort une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de, voici le but, afin de nous amener à Dieu. Christ a souffert pour nous amener à Dieu. Mais nous allons revenir à notre texte, c'est dans 1 Pierre chapitre 2, pour voir le contexte dans lequel le Saint-Esprit fait appel à la souffrance de Christ et à ses objectifs. Parce que on voit que sa souffrance est pour nous aussi dans un autre domaine. Donc nous allons voir premièrement le contexte dans lequel la souffrance de Christ affecte nos vies. Il y a un moment précis, il y a un domaine de la vie, il y a des circonstances ou des situations de la vie dans lesquelles la souffrance de Christ est appliquée à nos vies par la Bible, par cette lettre. Et Pierre va faire appel à la souffrance de Christ et il va en parler à ses chrétiens à qui il écrit. Mais le contexte dans lequel il va attirer leur attention vers les souffrances de Christ, la situation à laquelle il applique les souffrances de Christ à leur vie, eh bien, est très instructive. Dans 1 Pierre 2, si vous regardez verset 13, et puis le verset 18, et puis chapitre 3, verset 1, vous avez cette instruction, « Soyez soumis ». C'est un peu le contexte dans lequel nous trouvons. Un appel à se soumettre. Et le premier de ces appels, c'est dans le contexte de la nation, la société ou le pays. Regardez le verset 13, 1 Pierre 2, 13. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » Il va parler du roi et des gouverneurs, etc. Donc, premier contexte, dans la société, dans le pays. Deuxième contexte, verset 18, est dans le contexte du travail, du métier, de la profession. Il dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Et puis, si vous regardez le chapitre 3, verset 1, le troisième est dans le foyer, dans la famille, femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Donc, il y a le gouvernement, il y a l'entreprise et il y a la famille. Et cela englobe presque toute la vie, n'est-ce pas ? Sauf pour les vacances du mois d'août, peut-être. Et dans chacun de ces contextes, il y a l'appel à la soumission de la part de certains individus envers d'autres individus. Ça, c'est donc une partie de ce contexte. Un appel à la soumission aux autorités humaines établies par Dieu. Mais il y a un autre volet à la bonne compréhension du contexte. Pour bien comprendre ce contexte, il faut penser à ce roi auquel il devait se soumettre. Est-ce que vous pensez que ce roi, à l'époque, avait des valeurs chrétiennes ? Est-ce que vous pensez qu'il respectait même les chrétiens ? Certainement pas. Un contexte difficile. Il n'en a même pas besoin de le dire, d'ailleurs. Mais regardez le verset 18. Qu'en est-il de ses maîtres ? Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Qui a eu un chef, avec un caractère difficile. Bon, ne levez pas la main, mais vous l'avez probablement connu. Il parle du fait, au verset 29, de souffrir lorsque vous faites ce qui est bien. Quand on souffre, quand on fait ce qui est bien, on dit qu'on souffre, quoi ? Injustement. Et regardez dans le contexte familial, verset 1 du chapitre 3, « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Il se peut que ces femmes ont des maris chrétiens ou païens, il ne nous est pas dit, mais une chose est sûre, quelques-uns n'obéissent point à la parole de Dieu. Alors, à vous de me dire, le contexte est un appel à se soumettre à des autorités humaines établies par Dieu, mais dans quel type de situation ? Des situations de persécution quant au roi. De mauvais traitements de la part du chef au travail et de l'éventuelle désobéissance persistante de la part du mari. Donc le contexte dans lequel la souffrance de Christ affecte nos vies est celui-ci, la soumission aux autorités. On va utiliser ces deux mots pour les décrire, injuste et désobéissante. Ça, c'est le contexte. C'est un contexte difficile dans lequel nous nous trouvons ici. C'est dans cette partie de la lettre où Pierre, parle d'une soumission requise, quoique très difficile, c'est dans cette partie de la lettre qu'il va appliquer la souffrance de Christ à leur vie. Donc, considérons donc deuxièmement l'appel que donne la souffrance de Christ à nos vies. La souffrance de Christ, ça donne quoi à nos vies? Ça fait quel type d'appel? Ça nous appelle à quoi? Et le point de départ, c'est la souffrance de ces chrétiens. On a déjà vu ça, mais il va maintenant amener vers la souffrance de Christ et il va revenir après à leur vie. Et ce qu'il nous enseigne est que les souffrances de Christ, pour nous, déposent à nos pieds, si vous voulez, un don. Ce que Paul en Philippiens 2, 29 et Pierre ici au verset 20 appellent une grâce. Et ce que Pierre ici décrit comme un appel, c'est pourquoi que j'ai formulé ce deuxième point de cette façon, l'appel que donne la souffrance de Christ à nos vies. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? On dit à quelqu'un, Christ a souffert pour vous, donc... quoi ? Regardez le verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été, quoi ? Appelés. Et c'est quoi le cela dans le contexte ? C'est à cela. Pierre nous dit, vous souffrez lorsque vous faites ce qui est bien, verset 20, c'est-à-dire injustement, c'est une grâce devant Dieu et c'est à cela que vous avez été appelés. Nous sommes appelés à souffrir injustement. Ça ne devrait pas nous surprendre. Nous sommes appelés à souffrir injustement dans la société, au travail et dans la famille. Mais regardons encore le verset 21. C'est à cela, c'est-à-dire la souffrance illégitime, entre guillemets, que vous avez été appelés, et notez maintenant le lien, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Donc on dit, puisque Christ a souffert pour vous, eh bien, voici, vous êtes appelés aussi à souffrir pour avoir fait le bien, ou souffrir pour la justice, chapitre 3, verset 14, ou souffrir en faisant le bien, chapitre 3, verset 17, ou souffrir comme chrétien, chapitre 4, verset 16, ou comme Paul dit en Philippiens 2, 21, très simplement, de souffrir pour lui, c'est-à-dire pour Christ. Philippiens 1, 29, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore, quoi, de souffrir pour lui. C'est une grâce qui nous est faite. Donc l'appel que donne la souffrance à Christ à nos vies, c'est quoi? C'est de souffrir pour lui. Sa souffrance appelle de nos vies une certaine souffrance. Je récapitule 1 Pierre 2, 21, et c'est à cela, souffrir pour Christ, que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. C'est-à-dire, puisque Christ a souffert pour vous, vous êtes appelés à souffrir pour lui. Ça, c'est la vie chrétienne. Mais ce n'est pas le simple fait que Christ a souffert pour nous qui est la base de notre appel à souffrir pour lui. C'est très important, il faut faire attention ici. C'est-à-dire, la logique n'est pas celle-ci. Il a souffert pour toi, donc c'est à toi de souffrir pour lui, chacun son tour. Il a fait quelque chose pour toi, donc c'est à toi de faire quelque chose pour lui. Ce n'est pas du tout la logique de ce passage. Il t'a aidé, donc à toi de l'aider. C'est ce qu'il a fait pour nous en souffrant qui sert de base ou de fondement à notre appel à souffrir pour lui. Et c'est aussi où nous voyons dans ce texte les provisions que donne la souffrance de Christ à nos vies. C'est ça qui est très, très beau et qui est encourageant pour moi en tout cas. Quand Christ souffre, il y a une provision qu'il donne pour nous dans nos souffrances. Et je veux que vous regardiez bien le texte parce qu'il y a deux choses. Il faut bien suivre le texte pour les trouver. Les deux provisions sont repérables par l'utilisation du pronom « vous » et puis « nous » et la petite locution « afin que ». Donc, cherchez-le « afin que ». Regardez le verset 21. « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. » Voici la première provision. « Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Et il va maintenant développer cette idée. D'abord par une citation. Le verset 22 est une citation d'Ésaïe 53, verset 9. « Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Ça parle de foi. De quoi ? Ça parle de sa manière de souffrir. Hein, l'exemple de sa souffrance, c'est quand il a souffert, il n'a point commis de péché. Quand il a souffert injustement, de sa bouche, on n'a pas trouvé de fraude. Et puis le verset 23, c'est encore un élargissement de cette même vérité. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, quand on lui faisait souffrir, c'est le mot souffrance, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et maintenant, le verset 24 nous donne la deuxième provision. Donc, il nous laisse un exemple afin que nous suivions ses traces. Et maintenant, le verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. » Je vous encourage à peut-être le marquer dans vos Bibles. Voici une façon que vous pouvez le faire, c'est comme moi je l'ai fait ainsi. J'ai souligné « parce que Christ a souffert pour vous ». Ça, c'est un peu la phrase importante. Et puis j'ai mis le numéro 1. « Vous laissant un exemple ». J'ai entouré les deux mots « afin que ». Donc il a souffert pour nous. Deux choses ici. « Vous laissant un exemple afin que ». Et puis au verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, et j'ai entouré encore, afin que. » Il y a deux choses. Quand Jésus a souffert pour nous, il nous a laissé un exemple, et il a porté lui-même nos péchés sur la croix. Donc la première provision, c'est un modèle établi. Il dit, « Christ aussi a souffert pour vous, première chose, vous laissant un exemple ou un modèle. Modèle, c'est une chose ou une personne qui, grâce à ses caractéristiques et ses qualités, peut servir de référence, à l'imitation. C'est la référence. C'est-à-dire, dès qu'on souffre, la référence, c'est Jésus-Christ et ses souffrances. Voici la norme pour le chrétien. Jésus-Christ. Quand je souffre, je suis tenté à faire de la norme, enfin, à faire de la société peut-être la norme, ou faire de l'autre la norme. Puisque tu m'as fait ceci, moi je peux aussi te faire ainsi. C'est logique. Non, quand je souffre injustement, il n'y a qu'une seule norme, c'est Jésus-Christ et ses souffrances. Mais on réalise rapidement que nous avons besoin de plus qu'un exemple, n'est-ce pas? Un exemple peut être très décourageant parfois. Prenez un petit garçon et il y a une grande sœur peut-être. Elle fait toujours ses devoirs, elle est toujours gentille, toujours sage. Et à chaque fois, les parents lui disent « Mais pourquoi tu ne peux pas être comme ta sœur? Fais comme ta sœur. Travaille comme ta sœur. Nettoie ta chambre comme ta sœur. Sois poli comme ta sœur. » Vous pensez que ce petit garçon va être encouragé à bien agir? Je ne pense pas. Un exemple, en fait, peut nous agacer, peut nous décourager, parce que c'est toujours là, on n'arrive jamais, on se lasse, et puis on abandonne. Nous avons besoin de beaucoup plus qu'un exemple. Et c'est pour ça qu'il vient tout de suite à cette deuxième provision, qui est un salut qui est procuré. Quand quelqu'un procure quelque chose à quelqu'un, c'est obtenir à quelqu'un, par ses soins, une chose utile ou agréable. Christ a procuré quelque chose pour nous. Regardez le verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, et à la fin du verset, « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. » Une citation encore d'Ésaïe 53, le verset que nous avons lu tout à l'heure. Il a porté vos péchés, vous voyez ça? Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Il a porté vos péchés, pensez à vos péchés. Et pensez à Jésus-Christ qui les porte et vos péchés sur lui l'écrasent. Le tue. On dit quand quelqu'un meurt qu'il est mort de quelque chose. Il est mort d'un cancer, il a été tué par un accident de voiture, etc. Ben, Christ a été tué par nos péchés. Christ est mort à cause de nos péchés. Ce qui lui a donné la mort, c'est nos péchés, la colère de Dieu contre nos péchés qui se trouvaient sur lui. Et voyez, il dit ici qu'il les a portés. Ce mot est utilisé pour quand le Père a soulevé Christ jusqu'au ciel. Il a porté jusqu'au ciel. Ça veut dire que Christ a porté nos péchés jusqu'à la croix. Il y a cette image, pas seulement du fait que Christ, le jour même, le jour J, si vous voulez, de la crucifixion, il se trouve avec nos péchés, mais que quand il s'est fait baptiser, quand il s'est identifié au pécheur, il est devenu l'agneau de Dieu qui porte et qui ôte le péché du monde. Il nous est dit, même en Matthieu 8, qu'il guérissait les malades, etc. Et on l'explique avec ce verset d'Ésaïe 53, qu'il portait nos péchés et nos douleurs. Même pendant sa vie, son ministère, il avait sur lui le fardeau de nos péchés. Il aurait pu les abandonner, il aurait pu les délaisser, mais il les a portés tous les jours jusqu'à ce qu'il soit écrasé sur le poids de nos péchés. Alors, est-ce que vous pouvez énumérer vos péchés? Souvent, on justifie même nos péchés. Vous savez, Jésus-Christ a senti, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux même pas le comprendre, mais Jésus-Christ a senti, car il a porté chacun de mes péchés, chacun de vos péchés. Et c'est triste, n'est-ce pas, que nous, on passe le temps à justifier ceux pour lesquels Christ a souffert. Les mêmes péchés qu'il a souffert, qui lui a donné la mort, nous, on est en train de dire, bon, c'est pas si grave que ça. Comment pouvons-nous rester indifférents face à un Christ qui porte nos péchés? Et j'avance quatrièmement à la réponse de ceux qui souffrent à la souffrance de Christ. Peut-être vous souffrez aujourd'hui et vous voyez la souffrance de Christ. Vous voyez que ça vous donne donc un exemple, un modèle à suivre. Ça vous offre un salut. C'est ici où nous voulons noter les deux affins que nous avons entourés. Et c'est ici le lien intime entre la souffrance de Christ et ma souffrance. Regardez le premier de ces deux. « C'est à cela que vous avez été appelés, verset 21, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. » Donc il a établi un modèle qui demeure. Mais maintenant, notre réponse. « Afin que quoi ?» Vous suiviez ces traces. Donc, quelle est ma réponse envers un Christ qui souffre, moi qui me trouve dans les souffrances? Je suis dans ses traces. Je suis ses traces. Je le suis. Suivre ses traces, c'est plus que le fait de faire comme lui. Hein, là, on pourrait imaginer quelqu'un de très très loin. On le voit à la télé et on essaye de l'imiter, on essaye de faire comme lui. Mais l'image ici de suivre dans ses traces ou suivre ses traces, c'est une image beaucoup plus intime et relationnelle. C'est l'image d'un père et d'un fils qui marchent ensemble. Il y a son pas qui laisse tout de suite une trace et juste derrière, il y a l'enfant qui suit. Il suit ses traces, c'est-à-dire il reste à côté de lui. C'est l'idée d'imitation et de relation. Je veux être comme lui. S'il est pur, je veux être pur. S'il est patient, je veux être patient. S'il est aimable, je veux être aussi moi-même aimable. Je suis ses traces. Et notez le deuxième, c'est verset 24. Vous pouvez le regarder dans vos textes. Lui qui a porté lui-même vos péchés en son corps sur le bois, afin que, peut-être vous l'avez entouré, sinon vous pouvez le faire maintenant, afin que quoi? Mort au péché, nous vivions pour la justice. Il prend mes péchés et donc je meurs au péché. Et puis, étant mort au péché, je vis pour la justice. Moi, je l'ai mis ainsi. Je retourne à lui pour la mort et la vie. C'est-à-dire la mort à mon péché et la vie à la justice. Pourquoi j'utilise ce mot « retourner » ? J'utilise cette image de venir à lui à cause du dernier verset du chapitre. Regardez-le, le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes quoi? Retournez vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous êtes retourné, vous êtes venu, vous vous êtes approché de lui. J'étais errant, c'est-à-dire comme des brebis, nous suivions tous notre propre chemin, Ésaïe le dit d'ailleurs. Nous ne voulions pas venir à la lumière parce que nos œuvres étaient mauvaises. Il y a peut-être dans cette salle des personnes qui n'ont aucun intérêt en Christ, qui préfèrent réfléchir à autre chose et passer leur semaine à faire autre chose. Il dit, mais ceux qui vont au ciel sont revenus. Elles étaient des brebis errantes, mais elles sont revenues aux bergers et gardiens de vos âmes. Nous, nous sommes, comme il dit ailleurs, convertis, c'est-à-dire retournés. Nous nous sommes retournés vers le berger et le gardien de nos âmes. Je ne suis donc pas ces traces de loin, je les suis de près, comme une brebis suit les traces de son berger. J'entends sa voix et je pars à sa rencontre. Alors Christ a souffert pour nous. Et le message de l'évangile n'est pas que puisque Christ a souffert pour vous, vous n'allez plus souffrir. Je ne suis pas là pour annoncer que la deuxième moitié de 2018 sera sans souffrance pour vous tous. Sans soucis, sans tristesse, sans difficulté, non. Les souffrances de Christ, en fait, appellent ceux qui le suivent à souffrir. Et nous voyons, comme dit Paul, la communion non seulement de la puissance de sa résurrection, mais aussi la communion de ses souffrances. Mais dans ses souffrances, il nous a laissé un exemple. Et par ses souffrances, il nous a donné le salut. Et donc à nous, si vous souffrez aujourd'hui, de suivre ses traces. Mais comment suivre ses traces ? Revenez, revenez au berger et au gardien de vos âmes. Que Dieu nous aide tous, chacun, à revenir à lui. Prions. Notre Père, te remercions pour le bon berger, ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes pécheurs et pécheresses. Et parmi nos grandes fautes, c'est la faute de ne pas te chercher de tous nos cœurs. D'aimer le fait d'errer loin de toi. De préférer même les ténèbres à la sainte lumière, de ne pas désirer être pur comme tu es pur, de dédaigner le modèle qui est établi pour nous. Et au lieu de suivre ses traces, de suivre notre propre chemin, Seigneur, pardonne-nous, convainque-nous du péché que c'est de ne pas t'imiter en toutes choses. Mais à cause de notre péché, nous avons plus besoin de beaucoup plus qu'un modèle. Nous avons besoin d'un sauveur. Et nous prions que tu mets dans chaque cœur l'espérance que Christ est un bon sauveur, qu'il reçoit à bras ouverts des brebis errantes, qu'il est comme le Père qui a reçu son Fils prodigue, qui nous invite, qui nous appelle, qui nous ordonne même de revenir vers lui. Et que malgré nos fautes, nous pouvons trouver en lui le pardon, la paix et l'amour. Seigneur, que ta parole ne tombe pas dans des cœurs remplis de pierres, de ronces, mais que ta parole en nous porte du fruit pour notre bien et pour ta gloire. Amen.